Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette session d'actualité, 37e sommet d'Addis Abeba. Les présidents africains vont se réunir à Addis Abeba du 17 au 18 février 2024. Selon l'agenda non définitif, le sommet sera consacré à la réforme structurelle de l'organisation. Au Nord Kivu, où les affrontements ont repris ce vendredi matin entre combattants Wazalendo et les rebelles sur l'axe Chacha-Bweremena, un peu au sud de la cité de Sake, dans la chefferie des Bahoundé, territoire des Masisi. Pour l'instant, aucun bilan de ces combats n'est disponible. L'invité de ce journal est François Migabo Papi, chef de groupement Kacheni à Kamanyola. Il parle du Conseil local de sécurité et de proximité, CSLP en sigle, une structure du ministère de l'Intérieur mise en place avec l'appui de la MONUSCO à Kamanyola. Bonjour à tous. Les présidents africains se réunissent à Addis Abeba du 17 au 18 février pour les 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Sommet organisé sur fond des multiples crises politiques et sécuritaires qui secouent les continents africains. Cynthia Bachizinabizana pour plus de détails.
Un peu plus tôt cette semaine, c'est le Conseil exécutif de l'Union africaine avec les ministres des Affaires étrangères qui a donné le coup d'envoi du sommet. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine dont le mandat prend fin en 2025, se dit inquiet du sort d'un continent affecté par plusieurs coups d'État et conflits. D'où la surprise de certaines parties prenantes de ne pas voir aligner ces tensions multiformes au programme du sommet. En effet, selon l'agenda non définitif, cette assemblée générale sera consacrée principalement à la réforme structurelle de l'Union africaine. C'est dans ce cadre que le président rwandais Paul Kagame, nommé pour diriger le processus de réforme institutionnelle de l'UA, doit présenter le rapport final sur la réforme de l'organisation. Il y sera également question de coopération multilatérale des sujets économiques et commerciaux, avec notamment l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF, la zone de libre échange continental africaine. Pour autant, la partie congolaise espère remettre la question sécuritaire avec l'agression du Rwanda via le M23 au centre des débats. Plusieurs mini-sommets et discussions sont prévus en parallèle sur le conflit au Nord Kivu.
Dans le même chapitre, les enfants congolais dans les zones de conflit ne savent pas aller à l'école. Christelle Vuanga interpelle l'Union africaine sur son implication dans la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Prenant la parole à Addis Abeba en marge du sommet africain sur l'éducation, la députée nationale et représentante de l'Assemblée nationale à ce sommet a rappelé la vision des pères fondateurs de l'Afrique qui stipule que tous les pays de ces continents soient solidaires comme le membre d'un corps humain, tout en reconnaissant la responsabilité de la RDC dans la résolution des conflits armés dans l'est de la RDC, Christelle Vuanga a invité les dirigeants africains à ne pas rester indifférents face à ce qui se passe en RDC. Christelle Vuanga est au micro de Michel Kifindangoy.
En marge de ce sommet africain sur l'éducation, j'ai tenu à rappeler aux décideurs africains sur la nécessité d'avoir des programmes scolaires basés également sur nos repères et nos réalités africaines. Il est inadmissible d'enseigner aux enfants que les héros européens, alors qu'en Afrique, il y a eu des véritables héros et héroïnes. Les pères fondateurs de l'Union africaine, je cite Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Lumumba, Barthélemy Bongada, ont été tous unanimes sur le fait qu'ils voulaient une Afrique qui ressemble à un corps humain. Alors, en rapport avec la Charte africaine de droits de peuple et des droits humains, l'éducation est un droit fondamental. À l'heure où nous parlons, les enfants en RDC ne partent plus à l'école parce qu'il y a des conflits armés. J'en appelle à l'accompagnement de l'Union africaine dans ce processus des résolutions de conflits. La RDC veut la paix et elle aura sa paix.
15 milliards de francs congolais, c'est l'enveloppe mise à disposition de la Caisse nationale des solidarités par le Premier ministre Samal Koundé, représentant du chef de l'État. C'est pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles ainsi que les déplacés internes. La somme a été dévoilée lors d'une soirée des galas organisée hier soir à l'hôtel Fleuve Congo. C'est dans le cadre d'une campagne initiée par la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes du ministère des Affaires sociales sur toutes les l'étendue du pays. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Au Nord Kivu, une trentaine de jeunes leaders des villes de Beni et Butembo ainsi que des autorités locales sont sensibilisés depuis hier jeudi sur la cohésion sociale et la prévention des violences communautaires. Cette sensibilisation est organisée par la section des affaires civiles de la MONUSCO Beni. Pendant 2 jours, les participants seront incités à être des acteurs dans la lutte contre les violences et les discours de haine afin de promouvoir la cohésion sociale, la paix et la sécurité dans cette région. C'est l'esprit prôné par la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU. Benjamin Asimoni, l'un des facilitateurs à cette sensibilisation, parle de son importance au micro de Grévis Saloumou.
Des jeunes de la région de Beni qui, depuis un certain moment, à force de rester sous la menace de l'insécurité, ils ont autant été tentés par les belligérants, les acteurs politiques mal intentionnés d'entrer dans les activités des violences extrêmes qui, visiblement, après cette session, nous espérons, ça va être une réponse à cette maladie des manipulations, de la violence observée par moments au sein de la jeunesse. On voudrait que les jeunes comprennent leur degré de participation, les canaux qu'ils peuvent utiliser pour faire entendre leur voix, leur participation au processus de paix ne pourrait jamais arriver à créer des violences communautaires parce qu'à présence de ces contextes ici que nous traversons, s'il y a violence communautaire, ça va servir de pont ou de lit à l'ennemi qui a voulu longtemps, n'est-ce pas, créer cette confusion. La jeunesse se considère comme actrice importante dans la participation aux côtés des autorités et autres acteurs de paix afin de rétablir la paix et le maintien de la stabilité qui est tant voulue et par le gouvernement congolais et ardemment par la jeunesse elle-même.
Allons à présent à la découverte du centre récréatif des jeunes de Luvungi, dénommé Amani Santa, dans le territoire d'Uvira. Nous sommes dans le sud Kivu. Ce centre a été construit en mars 2022 dans le cadre du projet de réduction des violences communautaires mis sur pied par la MONUSCO. Grâce aux activités organisées, les jeunes se rassemblent, apprennent et se forment. Des activités comme l'apprentissage à l'informatique et des activités de loisirs y sont organisées. Objectif, éliminer les conflit entre les jeunes. Rachel Kiesembangu l'a visité hier jeudi. Elle nous en parle dans ses reportages.
Depuis son début en 2022 jusqu'à ce jour, Amani Santa participe à l'élimination de violences communautaires, surtout chez les jeunes, car il propose des activités de loisirs telles que suivre de matchs et aussi l'initiation à l'informatique. C'est également un endroit ouvert aux jeunes, leur permettant de réviser leurs cours. Jean-Claude Batoumiki est président d'Amani Santa.
Les moments où les jeunes allaient de se bagarrer n'importe où, c'est un peu difficile puisqu'il y a un centre qui est propre pour les jeunes. C'est pourquoi vraiment il y a quelques diminutions de violences entre nos jeunes. Lorsqu'on a installé le centre Amani Santa, beaucoup de jeunes venaient ici au centre, s'asseoir ici, étudier ici.
Jeune de Luvungi, Bernard Héritier bénéficie des services qu'offre ce centre dans la communauté. Ce dernier qui était novice en informatique sait aujourd'hui manipuler l'ordinateur.
Bon, moi, je suis un bon jeune, ici à la salle Amani Santa, venu ici pour nous former un petit travaux. Il y a des ordinateurs ici, il y a des réseaux Wi-Fi et tout comme ça. Alors, nous sommes beaucoup de jeunes. Il y a ceux qui sont partis à l'école, mais quand ils arrivent, ils viennent ici pour se faire cours du soir ici.
Signalons que ce centre encadre actuellement 47 jeunes, dont 20 filles. De Luvungi, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Je l'ai dit en titre, au Nord Kivu, les affrontements ont repris ce vendredi matin entre combattants Wazalendo et les rebelles sur l'axe Chacha-Bweremena, un peu au sud de la cité de Sake, dans la chefferie des Bahoundé, des territoires de Masisi. Pour l'instant, aucun bilan de ces combats n'est disponible. Nous faisons le point avec Gabriel Wamenya.
Les sources de la coordination territoriale de la société civile précisent que c'est pendant les petites heures du matin que les combattants Wazalendo ont lancé un assaut sur les positions des rebelles situées dans les collines de Kabase et Kagano. Jusqu'en fin de la matinée, les tirs à l'arme lourde et légère étaient toujours entendus dans les secteurs de Chacha où les rebelles ont creusé plusieurs trous de fusiliers, coupant ainsi la route Bweremana-Sake. D'autres affrontements sont signalés depuis ce matin dans la région couvrant la cité de Biambwe. Les mêmes sources dans la zone témoignent que les rebelles ont lancé des attaques simultanées contre les positions des combattants Wazalendo lorsqu'ils ont voulu contourner leur position sur les collines de Kabase et Kagano, surplombant la route principale entre la cité de Biambwe et Masisi Centre. Dans les territoires de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, en groupement de Buumba, la société civile confirme l'entrée des renforts des rebelles depuis le début de cette semaine par la frontière de Kabuhanga à partir de la borne numéro 20 à Kabagano. Rappelons que la cité de Sake reste toujours désertée de ses habitants depuis plus d'une semaine maintenant, en dépit de la présence renforcée de l'armée dans cette municipalité. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Dans les territoires de Beni, la synergie des sociétés civiles du groupement des Basongora a décidé jeudi la suspension de la série des journées Ville morte illimitée décrétée il y a une semaine à Kasindi Lubiriha. C'est une commune rurale frontalière de l'Ouganda. Une situation qui était à la base d'une paralysie totale des activités socio-économiques dans la région. Selon les organisateurs, cette suspension d'une durée de 2 semaines permettra aux autorités de répondre favorablement à leurs revendications. C'est notamment la relève des éléments des forces de l'ordre en service depuis plusieurs années à Kasindi Lubiriha et qui sont accusés d'être à la base de l'insécurité dans la région. Ensuite, cette nouvelle de la fermeture de la base opérationnelle de la MONUSCO à Baraka, Fizi, dans la province du Sud Kivu. Le représentant du gouverneur du Sud Kivu et ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Gaston Sisawanumbe, l'a annoncé pour le 15 mars 2024 prochain. L'annonce a été faite ce jeudi à Baraka au cours d'une réunion du Conseil urbain de sécurité élargie qu'il a présidé avec les chefs du sous-bureau de la MONUSCO Uvira. Plus de 30 acteurs locaux et étatiques et non étatiques compris partent à cette rencontre qui avait deux objectifs, fournir des informations et recueillir les avis des leaders et autorités locales sur ces processus. Reportage de Fiston Goma, ici rendu par Emmanuel Elamejoa Kabidi.
Madame émérite Tabisha Mongeloa vient de participer à cette réunion du Conseil urbain de sécurité élargie. À l'annonce du désengagement et du plan de transition du retrait de la MONUSCO de Baraka et dans la province, cette adjointe du maire de la ville de Baraka s'est exprimée. Les représentants de mutualité, des organisations de la société civile, de la jeunesse, les chefs coutumiers ainsi que les chefs de service se sont exprimés sur la disponibilisation des équipements, les mobiliers et les matériels roulants de la MONUSCO pour accompagner les institutions étatiques locales. Le chef de la délégation provinciale et ministre provincial de ZITEPER au Sud Kivu, M. Sisawanumbe, a donné des éclaircissements sur le plaidoyer en cours sur toutes ces questions au niveau provincial. La MONUSCO, alors MONUC, avait déployé en son temps ses casques bleus pour ouvrir ses bureaux à Baraka. C'était en septembre 2007.
Dans la province du Maniema, les collectifs des journalistes pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme, CJDH Maniema, s'est dit préoccupé par la délinquance juvénile de certains jeunes réunis dans les associations de jeunes communément appelées BASE. Dans une interview avec votre radio ce vendredi 16 février, ce collectif appelle les gouverneurs intérimaires Afani Idrissa Mangala de retirer tous ces arrêtés autorisant les fonctionnements provisoires des associations de jeunes dites base dans la ville de Kindu. Le secrétaire exécutif de CJDH Maniema fait savoir que ces bases commettent beaucoup de dégâts, voire même humains. On écoute Maître Rajabu Boutindi Ferdinand au micro de Florence Kizalunga.
Nous demandons le retrait des décisions du gouverneur des provinces auprès des bases parce que nous constatons avec amertume qu'il y a l'augmentation de la délinquance juvénile mais aussi qu'il orchestre beaucoup plusieurs morts dans la ville de Kindu. Vous avez constaté avec moi qu'il y a eu la mort de M. Patrick, Maître Dido Kakisingi et les autres. Nous, État qui est en train de prôner beaucoup plus la vallée de l'homme, nous n'allons pas croiser les bras. Voilà pourquoi nous avons entamé ces démarches pour que le gouverneur des provinces puisse retirer sa décision. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que si vous consultez la loi numéro 004 de 2001, du 20 juillet, donne la possibilité au gouverneur des provinces à son article 23, mais aussi au ministre de la Justice, de retirer ou de suspendre toute activité d'une association qui entraîne trouble à l'ordre public, mais aussi à d'autres troubles. Voilà pourquoi nous, étant que les hommes de Bindia, nous venons auprès de vous dénoncer beaucoup plus pour que la conscience du gouverneur de province puisse revenir afin de retirer ces décisions données par ces associations vidons. S'il ne retire pas, il va tirer toutes les conséquences juridiques.
Du Maniema, rendons-nous à présent dans la province du Kwilu, où il y a eu lancement hier jeudi dans la ville de Kikwit de la mise en œuvre des services de nutrition à assise communautaire NAC. Cela dans le cadre du projet multisectoriel de nutrition et de santé PMNS dans son volet nutrition à assise communautaire financé par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS. Le but est de lutter contre la malnutrition chronique qui survient dans le 1000 premier jour de la vie de l'enfant dans cette province. Cette approche NAC va consister à appuyer les interventions nutritionnelles dans 10 zones de santé que compte la province. C'est le ministre provincial de la Santé, Dr Bena Mutui, qui a procédé au lancement officiel de la NAC en présence de plusieurs autorités sanitaires et des partenaires. Irène Bomaluzolo pour des précisions.
L'assistant technique du PMNS au Kwilu, Dr Membadjo, indique que la nutrition à assise communautaire NAC, qui est une composante du PMNS et qui vient d'être lancée au Kwilu, a pour objectif de lutter contre la malnutrition chronique dans les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant.
On va mettre en place au niveau de chaque aire de santé et au niveau du village, la NAC. Donc, on va appuyer les interventions nutritionnelles au niveau des communautés, justement pour lutter contre la malnutrition chronique qui peut arriver pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Pendant que la femme a la grossesse ou si elle est adolescente, il y a des interventions qu'on mène là. Et il y a les interventions qu'on met à la naissance. Et une autre étape, c'est de 0 à 5 mois, de 6 à 23 mois, pour justement lutter contre la malnutrition chronique que la composante NAC va appuyer dans le cadre du projet PMNS au niveau de la province du Kwilu.
Notez que la NAC va être implémentée pendant 10 ans dans 10 zones de santé sur les 24 que compte la DPS Kwilu, avec un budget de 24 millions de dollars américains financé par IGPDSS. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Cameroun anglophone, au moins un mort et 40 blessés dans un attentat. Une bombe a explosé dans la paisible ville d'Nkambé, située dans la région du nord-ouest du Cameroun, à environ 600 km de Bouéha, dans la région du sud-ouest. Cet événement tragique a secoué la communauté locale alors que plusieurs personnes, y compris des enfants, ont été blessées et ont dû être admises dans les établissements de santé de la ville pour recevoir des soins médicaux.
L'invité.
Notre invité vient du Sud Kivu et s'appelle François Migabo Papi, chef de groupement des Kacheni à Kamanyola. Il parle du Conseil local de sécurité et de proximité CSLP en sigle, une structure du ministère de l'Intérieur mise en place avec l'appui de la MONUSCO à Kamanyola. Le Conseil local de sécurité et de proximité de Kamanyola a bénéficié de l'accompagnement de la MONUSCO, notamment par des ateliers de renforcement des capacités. Comment ce Conseil de sécurité est-il opérationnel dans les groupements des Kacheni? François Migabo Papi, chef de groupement des Kacheni, nous en parle dans cet entretien avec Rachel Kiesembangu.
Monsieur François Migabo Papi, bonjour.
Bonjour madame.
Parlez-nous de ce cadre de sécurité qu'est le Conseil local de sécurité de proximité.
Le Conseil local de sécurité de proximité, en sigle le CLSP, c'est une structure de l'État, du ministère de l'Intérieur, mais qui a été installé avec l'appui du partenaire de la MONUSCO ici chez nous à Kamanyola. Mais le CLSP, c'est au niveau de la chefferie. Tandis qu'au niveau du groupement, on parle du forum du groupement qui est composé par le chef de groupement qui est le président, également la police, la DGM, l'ANR, également les parquets aussi fait partie et la société civile joue aussi un rôle du secrétariat. Donc, c'est une structure qui a été installée avec l'appui de la MONUSCO.
Comment avez-vous été accompagné pour le bon fonctionnement de ce cadre par la MONUSCO?
Nous avons été accompagnés par la MONUSCO via le ministère de l'Intérieur en nous renforçant surtout en capacité. Mais également, vous savez, il existe un outil très important aux autorités territoriales décentralisées, qui est le guide à l'usage des autorités territoriales. Il y a des détails qui montrent les attributions de tout un chacun. Donc, chaque autorité connaît déjà ses attributions. Avec cet appui, la MONUSCO nous a renforcé capacité. Après avoir été renforcé en capacité, ils nous ont doté aussi de cet outil-là. Donc, chaque autorité qui était concernée a veillé cet outil-là. Et à part ça, on a veillé autant des ateliers, autant de formations, toujours appuyées par la MONUSCO. Il y a d'autres ateliers qui touchaient sur la sécurité pour améliorer aussi la capacité dans la zone. Et c'est là toujours en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, avec l'appui de la MONUSCO.
Parlez-nous concrètement de comment vous faites pour maintenir la sécurité dans votre entité à travers ce conseil local des sécurités de proximité.
Madame, lorsque il y a quelque chose qui ne marche pas dans la zone, c'est notre obligation de pouvoir convoquer urgentement, parce que la loi prévoit que l'on puisse se rencontrer une fois le mois, mais au vu des urgences, quelquefois on se rencontre même quatre fois le mois. Donc s'il y a des soucis dans l'entité, nous devons nous réunir urgentement et voir comment trouver des solutions aux problèmes qui touchent surtout sur la sécurité. Et c'est pas seulement la sécurité, mais chaque problème qui touche sur nos communautés, par exemple les conflits entre éleveurs et agriculteurs, par exemple les conflits entre les différentes communautés, comme nous sommes dans une entité purement cosmopolite où il y a autant des ethnies, autant de communautés. Donc nous nous rencontrons et ensemble nous trouvons des solutions. Comme tantôt, c'est que j'ai dit aussi que la société civile fait partie aussi. Donc ensemble, on invite les parties concernées et on trouve des solutions à l'amiable, sans pour autant aller aux instances judiciaires par exemple.
Comment comptez-vous pérenniser les acquis de la MONUSCO, de votre collaboration avec la MONUSCO, surtout que la MONUSCO va se retirer, va se désengager de la province du Sud Kivu?
Oui, madame, je sais que la MONUSCO est en train de nous quitter sans le vouloir, mais c'est arrivé. Mais cela ne va pas aussi nous décourager, nous allons aussi par nous. Petit moyen pour renforcer encore de plus la sécurité, parce que vous savez, la sécurité, c'est une affaire de tous. Donc, nous allons inviter tous les leaders de notre entité de pouvoir s'approprier surtout la sécurité, également les chefs des avenues, les chefs des villages, chacun en ce qui les concerne, de pouvoir faire des alertes lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la zone. Il y a des numéros verts que la population ou que les gens peuvent appeler sans pour autant utiliser des unités. Et cela va aider d'autant plus les agents qui sont chargés de la sécurité. Même si la MONUSCO était là, bien sûr, on peut avoir autant d'éléments des FARDC, autant d'éléments de la police ou de la DGM ou de la ANR. Mais sans l'appui de la population, ces services-là ne peuvent rien faire. Donc, nous continuerons toujours à demander un appui vraiment à la population de pouvoir accompagner ces services ayant dans les attributions de la sécurité.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal des midi à Radio Okapi. Supervision et coordination Jacques-Yves Molima et Martin Sebujangwe. À la présentation, Patience Ngalula, Polydor Basunga a assuré sa mise en onde. Merci à vous tous qui nous aviez suivis et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.